France Inter, franceinter.com. CO2 mon amour, avec Paprec, recyclage des déchets des industries et des collectivités.
Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement, CO2 mon amour, avec Claudine Lapersonne et Michel Thomas aujourd'hui à la technique, et assisté de Jean-Baptiste Audibert et de Jean-Christophe Pinaza, c'est Xavier Pestugia qui réalise cette émission. Allez, une petite humeur qui va s'appeler dictature et environnement, parce que l'avantage des régimes autoritaires, c'est qu'on ne s'embête pas avec les référendums, les majorités qualifiées et toutes ces sortes de choses. Les choix difficiles, on les fait entre amis. Et pour ceux qui ne sont pas d'accord, c'est la prison directement, sans passer par la case Grenelle, grève ou négociation. Alors allez savoir pourquoi, mais ce sont ces pays-là qu'on préfère dans l'industrie du nucléaire en ce moment, des pays comme la Chine et la Libye. Bref, petit livre rouge, livre vert, bruit de bottes et silence de pantoufles, c'est un peu le même combat. C'est parti, on y va. Donc on va en Chine d'abord. On n'a pas de pétrole, on le sait, mais on a quand même du charbon et même beaucoup de charbon. 10% de croissance sur 10 ans, ça nous fait quoi? Ah ben ça nous fait quand même dans les 2000 centrales à charbon. Et puis j'oubliais, pendant que vous y êtes, vous mettez aussi quelques tranches nucléaires. Et pour faire bonne mesure, bah vous me plantez là, un mur de béton en travers de la vallée du Yangtze et vous me noyez le tout sur des centaines de kilomètres. Vous m'expulsez un bon million d'habitants, vive le barrage des Trois Gorges et tant pis pour les récalcitrants. Alors, bilan de l'opération croissance effrénée, 40 ans après le petit livre rouge, la Chine bat tous les records d'émissions de gaz à effet de serre, de pollution des villes et des rivières. Des records dont se serait bien passé au 17e congrès du Parti communiste les dirigeants à quelques mois des Jeux Olympiques, parce que les coureurs de médailles, voyez-vous, on les aime autant sans filtre à particules à la place des poumons. Alors, autre lieu, autre mœurs. Rendez-vous cette fois-ci à Cyrène. Cyrène, c'est l'antique cité gréco-romaine sur la côte de Libye, où la maison Kadhafi et fils nous présente sa collection d'automne de projets pharaoniques. Il y avait déjà la grande rivière artificielle, donc un aqueduc géant qui transporte l'eau des anciennes nappes souterraines du désert libyen sur des milliers de kilomètres. Et bien voici la montagne verte de Saïf Kadhafi, le fils, projet d'écotourisme et développement durable en bord de mer. Qu'est-ce qu'on y fait? Ben on intègre les constructions dans le paysage, on recycle les déchets, on tourne l'énergie du soleil et du vent, on préserve l'écosystème marin, ça va faire un refuge pour les derniers thons de Méditerranée, il faut en profiter, il n'y en a pas beaucoup, les phoques et les tortues. Et même si dans la grande tradition de la démocratie directe, comme on dit là-bas, on n'a pas demandé leur avis aux habitants, et bien avec un baril de pétrole à peu près bientôt à 100 $, aucun doute, ça peut le faire. Mais pendant que vous y êtes, amis libyens, vous m'oubliez cette histoire ridicule de dessalage d'eau de mer à l'énergie nucléaire. Ne me racontez pas qu'un pays qui bat tous les records d'ensoleillement ne peut pas faire autrement. Et que ceux qui ne sont pas d'accord, lèvent la main. Alors du beau monde dans cette émission, ronde des journalistes, on va faire un petit peu le point sur l'actualité, on ne pourra pas évidemment tout balayer. Avec donc, bah, je l'avais cité, bonjour Anne Chaon de l'AFP.
Bonjour.
Anne, on va parler de quoi? Juste peut-être deux chapitres.
Le Grenelle peut-il sauver la Guyane de l'orpaillage débridé? Et une question subsidiaire, l'État est-il voué à la schizophrénie?
Oui, et c'est depuis un certain temps on se la pose. Olivier Noyas de La Vie, bonjour Olivier.
Bonjour.
Alors, vous sortez un numéro, un numéro spécial, cette semaine vraiment, numéro de La Vie, l'écologie est-elle un luxe? On va en parler ça, hein.
Oui, tout à fait. C'est pour ne pas ajouter à une fracture sociale, une fracture environnementale.
Et Laure Noilatte de Libération, avec nous. Bonjour Laure.
Bonjour. Alors moi, oui. Alors moi, je vais parler de négationnisme écologique, de schizophrénie également, de déni, enfin tout ça. Voilà.
Bon, et puis Hélène Krié-Wissner nous rejoindra. Elle est aux États-Unis, on est en train de la réveiller tranquillement. Jean-Marie Pelt également. Et puis Nathalie Fontrelle que nous aurons aussi au téléphone. Donc beaucoup de sujets de conversation. Je vous souhaite vraiment une belle après-midi. C'est parti, c'est CO2 mon amour en direct sur Inter.
Trois c'est trop pour le tango, et deux c'est quelquefois trop. Y a deux tables de la loi, y en a que deux, pardon, pas trois. Mathématiques. Trois c'est trop pour le tango,
ça ne vous gênait pas trop, ce coin d'enfer. Du côté des chiffres impairs, commis à ne plus savoir qu'en faire, encore bravo. Y'a deux Irlandes, bientôt plus qu'une, y'a qu'un champion à la une. Bien sûr, y'a qu'un seul amour pour les deux qui sont pour. Trois, c'est trop pour le tango, et deux, c'est quelquefois trop. Oh, 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 oh. Trois compter l'ultimatum, me choisir oublier l'autre homme. Pour deux mesures y a deux poids, pour la dépasser y avait moi, loin derrière toi. Multiplier les soupirs, je m'en soustrais pour le pire, petite sœur. Je pose mon cœur à la consigne, je perds la clé et je m'assigne à vivre ailleurs. Y a deux revers, une médaille, une seule issue aux batailles. Bien sûr, y a qu'un seul amour pour ceux qui sont pour. Trois, c'est trop pour le tango, et deux, c'est quelquefois trop. Y'a deux revers, une médaille, une seule issue aux batailles. Bien sûr, y'a qu'un seul amour pour ceux qui sont pour. Trois, c'est trop pour le tango, et deux, c'est quelquefois trop. Oh, oh, oh. Ceux qui sont pour. Trois, c'est trop pour le tango, et deux, c'est quelquefois trop. Trois, c'est trop pour le tango, et deux, c'est quelquefois trop.
Eh ben c'est très agréable et ça marche bien. Ça, c'est Lambert Wilson. Toi, c'est trop. Lambert Wilson sera bientôt. Je dis bientôt parce que j'ai pas une date précise, mais il va être un peu le rédacteur en chef de cette émission. Il viendra donc en direct avec différents sujets. On aurait pu vous faire divorce et environnement parce qu'on le sait, dès qu'on divorce, eh bien on a deux appartements, deux voitures, 36 portions individuelles, plein d'emballages, des déchets supplémentaires. On sait que c'est pas bon du tout pour le CO2, mais c'est excellent pour les ventes de journaux en ce moment. Alors, on va parler du Grenelle de l'environnement et on va commencer par Nicolas Hulot qui était l'invité il y a quelques jours chez Nicolas Demorand.
Il faut que ce Grenelle, qui ne doit pas évidemment être attendu comme un moment de révolution immédiat, mais doit enclencher un changement de cap, et ça ne peut pas être simplement une messe de plus. On ne peut pas décevoir. À l'argument que j'entends souvent, tout ça est bien beau, mais la France est epsilonde dans les problèmes environnementaux et climatiques. Moi, je pense que la France a tout à gagner d'être audacieuse, y compris sur un plan économique. Et comme je l'ai écrit dans Le Monde hier, je pense que les économies les plus prospères, ce sont les économies qui sont capables de s'adapter, qui font preuve de flexibilité. Et comme il y a une réalité qui va s'imposer de gré ou de force, autant s'y préparer, c'est un avantage économique que la France doit avoir. Et je suis sûr que l'Europe nous observe justement dans ce moment important et que la France a un rôle d'entraînement majeur. Je pense qu'après avoir été quelque part un peu la lanterne rouge sur le plan environnemental au niveau européen,
la lanterne verte,
elle peut être une sorte de phare qui éclaire dans la bonne et la nouvelle direction. Je prends un exemple très simple. J'ai vu dans les propositions du Grenelle que l'on propose de diminuer la vitesse de 10 km/h
pour les voitures.
Pourquoi pas ? Mais la vraie cohérence, c'est quoi ? Ce serait qu'au moment où on a la présidence de l'Union européenne en 2008, la France demande des normes aux industriels automobiles pour qu'à très court terme, on cesse de proposer sur le marché des véhicules qui peuvent tous potentiellement rouler au-delà de la vitesse autorisée. C'est ça la cohérence. Et donc il faut aller beaucoup plus loin dans les objectifs.
Oui, parce qu'il y a un petit sondage qui est quand même sorti il n'y a pas tellement longtemps. Les Français ne veulent surtout pas réduire leur vitesse automobile. Alors, le Grenelle, on le sait, après la réunion des groupes de travail, c'était la consultation du public. La table ronde finale entre les différents acteurs aura lieu donc le 24 et 25 octobre prochain. Et puis, à la mi-décembre, Jean-Louis Borloo donc présentera une vingtaine, on va dire, de programmes opérationnels. Et 1er septembre 2008, ce sera la présentation au Parlement d'un projet de loi d'orientation qui reprendra les conclusions du Grenelle. Ce sera peut-être après les municipales, on ne sait pas, on va voir comment ça va se passer ou non. Alors, quel est un petit peu votre sentiment les unes les autres? Peut-être tout d'abord, effectivement, Anne Charron de l'AFP, mesures structurantes ou non, comment vous avez vécu, vous, un peu ce Grenelle de l'environnement?
Écoutez, comme un laboratoire. Et je suis un petit peu agacée, hein, le mot est mesuré, par les Cassandres qui viennent nous expliquer qu'en fait c'était une espèce de grande messe et une grosse opération de com qui n'aboutira pas. Moi je dis attendons, il s'est quand même passé des choses en 4 mois. On a mis en vis-à-vis des gens qui n'avaient absolument pas l'habitude de se parler, qui ont des cultures très différentes. Les représentants des associations étaient quand même perçus comme des uluberlus, des gens manquant totalement de sens pratique. Eux-mêmes se méfiaient considérablement du monde des affaires. Peut-être se méfie-t-on encore aujourd'hui les uns des autres, mais au moins ils se sont rendus compte qu'on pouvait se parler, que les syndicats qui ont cette défense du pouvoir d'achat très présente à l'esprit en permanence quand ils négocient, ne sont pas non plus autistes quand il s'agit de se projeter dans l'avenir et de veiller à la pérennité des activités. Le monde de l'entreprise, bien évidemment aussi, parce qu'on ne fait des affaires que quand on a une visibilité sur 30 ans. Aux États-Unis, c'est quand même le monde des affaires qui a commencé à bouger bien avant l'administration en termes de réduction des gaz à effet de serre dans certaines villes, dans certains États. Le monde de l'entreprise n'est pas lui non plus autiste. Et le fait que tous ces gens puissent se parler, mettre leurs expertise sur la table et échanger, on a quand même aujourd'hui une plateforme qui, si elle n'est pas parfaite, et rien de parfait sortira du Grenelle, c'est pas la peine de rêver, mais même si elle n'est pas parfaite, elle propose quand même énormément de pistes. Et en tout cas, c'est un exercice qui est effectivement unique, empirique, qui est encore assez flou. Même la tenue de la table ronde, hein, il y a encore pas mal d'incertitudes finalement sur ce qui va en sortir et la façon dont ça va sortir. Mais quand même, ça s'est tenu. Et je voulais juste vous dire que j'ai vu un de nos confrères brésiliens du journal do Brasil qui venait interviewer Jean-Louis Borloo et qui était absolument fasciné par cette expérience et qui disait, nous au Brésil, notre ministre de l'Environnement et celle de la Planification sont deux copines de Lula, très proches, les historiques, qui se tirent la bourre. Lula a le plus grand mal à arbitrer entre les deux. Et je trouve que si on pouvait arriver à faire ces états généraux de l'environnement, on avancerait énormément. Donc, voilà.
C'est vrai que c'est important parce que c'est aussi, on le sait, le point de rencontre de contradictions qui sont bien françaises. Comment vous aussi, vous avez vu cela donc, lors de la délibération?
Moi, je l'ai vécu, oui, effectivement, comme Anne, hein, de l'intérieur. On a suivi les groupes de travail, etc. On a même vu le document final. Alors, je suis un peu moins optimiste qu'Anne. Enfin, qui dit quoi? Qui dit il ne faut pas insulter l'avenir. L'avenir, il est très proche. C'est après-demain. On va voir. Enfin, on verra les négociations, ce que ça va donner. Je suis beaucoup, beaucoup moins optimiste, tout simplement parce que même, oui, le monde des affaires qui bouge, les gens bougent, etc. Mais on est arrivé... Avant, on était, je pense, dans une période de déni par rapport à cette question-là. Maintenant, on est dans la période de la schizophrénie. C'est-à-dire qu'il va falloir continuer à faire comme avant, mais... On peut continuer à consommer, etc. Sauf que tant que c'est vert, bio, équitable, alors là, c'est bon, on peut s'en foutre partout, plein les fouilles, justement. Parce qu'effectivement, en termes d'environnement, en termes de business, la green revolution, c'est beaucoup d'argent. Le dollar, c'est un billet vert aussi. On peut dire qu'effectivement, c'est beaucoup d'argent, beaucoup de bénéfices, de profits. Il y a quelque chose à faire.
Il y a une bulle verte qui est en train de monter d'ailleurs aussi aux États-Unis.
Il y a une bulle verte aux États-Unis et il y a une bulle verte en France. Par exemple, on a rencontré l'entreprise qui va faire les étiquetages, les étiquettes carbone qui vont déferler donc dans les supermarchés.
C'est-à-dire qu'au-delà du prix, ça va nous indiquer
le pourcentage CO2, de déchets possible, le kilométrage parcouru par ce produit, ainsi que les grammes de CO2 émis, voire les kilos de CO2 émis. Son chiffre d'affaires a été a quadruplé en 2 ans, quoi. Voilà, donc c'est très bien pour lui. Il va nous étiqueter des bon and so what, quoi. Voilà, on va se culpabiliser encore en ayant plein d'informations. L'information croule sous l'information. Ça y est, on les a, les informations. Non, faut vraiment bouger dans nos têtes aussi, parce que le Grenelle, c'est ça qui va manquer. C'est le fait de bouger dans nos têtes.
Alors, voilà. Olivier Noyas, dans ce numéro de La Vie, justement, il y a un très bon papier de notre confrère Jean-Claude Guilbeault. et qui pointe exactement ça. Quoi. Il dit il restera de toute façon une contradiction centrale sur laquelle butent encore et buteront tous les Grenelles de l'environnement. Ça tient à notre définition du civisme et de la citoyenneté. D'un côté, la conscience écologique donc émergente nous commande de réapprendre une certaine parcimonie, de réinventer les réflexes économes, d'avoir aussi le principe de précaution vraiment en tête. Et puis de l'autre côté, eh ben, y a donc l'injonction contraire, consommer pour faire tourner la machine, améliorer la croissance.
Oui, je crois qu'il y a les deux. Il y a eu à la fois, il y a toujours un bouillonnement démocratique, un bouillonnement de la parole publique, des associations. Enfin, je crois que ça a été très positif. Même ceux qu'on critiquait, parce que finalement, il y a eu les contre-grenelles de l'environnement, il y a eu le Grenelle off. Enfin, tout ça participe quand même du même débat démocratique. Donc, qu'on soit sceptique ou enthousiaste, je crois que tout le monde a pu participer. Ça, c'est très positif. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie contradiction sur après. Je crois qu'on peut pas uniquement s'en remettre avec des slogans du genre, consommer mieux, consommer intelligemment, consommer autrement. C'est vrai que la question centrale, c'est quand même l'épuisement des ressources, c'est quand même cette sobriété, j'aime bien ce mot-là, qu'il va quand même falloir, parce que c'est vrai que c'est pas... Il y a quand même une gabegie de consommation, enfin, il y a des tas de produits
on
inutiles.
On est dans une société du gâchis, quoi, il faut le dire. Hein, c'est-à-dire qu'on est actuellement dans le jetable, on n'est pas encore totalement dans le durable.
Voilà, donc je pense que là, effectivement, en même temps, vous avez un Grenelle de l'environnement avec Jean-Louis Borloo, avec Nathalie Kosciusko-Morizet, avec les ONG, puis de l'autre côté, vous avez cette fameuse Commission pour la libération de la croissance qui dit exactement le contraire. Et les deux ont été mis en place par le même pouvoir politique.
Alors justement, c'est peut-être un peu le coup de gueule de notre ami Jean-Marie Pell. Jean-Marie, bonjour. Alors Jean-Marie, vous êtes actuellement, donc je sais, du côté de Mulhouse, vous êtes en Alsace, et on voulait que vous soyez avec nos amis journalistes, justement, parce que, donc, vous le savez, Jacques Attali est donc le président de cette commission Libérons la croissance, et il y a certaines choses qui vous ont fait peut-être un petit peu bondir, Jean-Marie, dans l'actualité.
Oui, je dois dire, pour le peu que j'en ai su, j'ai été absolument stupéfait de ces conclusions provisoires de la commission en question. On a parlé de schizophrénie, il y a quand même un peu de ça. Trois choses. Première chose, on va pousser cette fois-ci à mort la concurrence dans la grande distribution. Bien, comme on a pris quelques prudences pour que le petit commerce ne soit pas totalement ruiné, que les centres-villes ne soient pas totalement désertés, qu'il y ait des commerces de proximité dans les quartiers, qu'il y ait encore quelques petits commerces dans les villages, si on fait ça, très bien, eh bien, tout ça va s'effondrer complètement, ce qui est complètement anti-écologique. Deuxième remarque, étonnante aussi, l'idée de faire des villes écologiquement correctes, qui seraient exemplaires. J'ai passé ma soirée hier avec mes amis de Fribourg, en Allemagne, qui sont exemplaires. Seulement, ils ont mis 30 ans pour faire Fribourg. Or, ces villes nouvelles, de 50 000 habitants, qui sont écologiquement exemplaires selon le rapport, elles devraient être finies en 2012, si j'ai bien compris. Et si c'est vrai,
oui,
ben, si c'est vrai, c'est qu'on est à côté de la question. Parce que j'étais maire adjoint chargé de l'urbanisme à Metz, et je vous jure qu'on ne change pas une ville en 3 ans. Il faut 30 ans pour faire une ville réussie. Troisième chose, c'est la disparition subite de la Constitution du principe de précaution. Alors, on vient de l'y mettre, et puis on va l'enlever. Pas très logique. Marche avant, marche arrière.
Nathalie Kosciusko-Morizet, juste une seconde, Jean-Marie Pell. Nathalie Kosciusko-Morizet, notre secrétaire d'État, donc, qui est aussi donc, à l'origine hein, par rapport à cette constitution, et qui l'a vraiment aussi portée, a trouvé ça tout à fait réactionnaire, elle l'a dit.
Hein. Eh bien, tout à fait, mais je partage absolument son point de vue, comme sont d'ailleurs la plupart des questions environnementales. Alors, là aussi, il y a une contradiction extraordinaire. C'est pour que nous ayons du courage pour innover, pour faire de la recherche, pour prendre des risques. Mais si vous faites 55 km à l'heure en sortant d'une agglomération où il n'y a pas l'ombre du nombre de risques accidentogènes et que vous avez une voiture avec des radars embarqués, vous perdez un point et vous avez un PV. Alors, d'un côté, il y a une sorte de furie sécuritaire, et puis de l'autre côté, il y a le contraire. Alors, je suis très surpris qu'on puisse, en effet, proposer de faire dire une chose et son contraire en même temps.
Oui. Alors Jean-Marie, on va vous retrouver dans quelques instants parce que j'aimerais qu'on parle aussi un peu de biodiversité. Et comme vous avez participé, vous, vraiment de l'intérieur, dans un des groupes de travail de ce Grenelle, vous allez nous en dire quelques mots. En ligne aussi, nous saluons Hélène Crier-Villesner. Bonjour, bonjour Hélène.
Bonjour Denis.
Alors vous êtes aux États-Unis toujours, là-bas?
Et oui, comme vous dites, je viens de me réveiller.
Je viens de vous réveiller. Alors vous écrivez toujours des polars écologiques, vous avez toujours votre fibre aussi journalistique. Quelle est peut-être un petit peu d'abord votre réaction? Je ne suis pas sûr que notre Grenelle effectivement passionne peut-être complètement les gens aux États-Unis. Peut-être que je me trompe, je ne sais pas.
Ça... Non, pas du tout, il ne passionne pas. Et non, ce qui passionne beaucoup, c'est un petit peu les grèves et les premières grèves du nouveau président, puis surtout son divorce. Ça passionne.
Ah oui,
non,
ça...
mais sur le Grenelle, ça passionne peut-être pas les médias, les Américains, mais moi, ça me passionne. Je suis et je voudrais signaler à tous les Français qui disent oh c'est pas grand chose, ça sert à rien, enfin qui sont assez pessimistes, que ici moi j'aimerais bien qu'il y en ait un, parce que j'ai lu récemment, il y a pas plus tard qu'il y a deux jours, dans le journal local, dans l'État de Caroline du Nord, puisque vous savez, aux États-Unis, ça fonctionne moins au niveau de l'État fédéral, les réformes environnementales, qu'au quotidien, au niveau des États. Et moi, je vis en Caroline du Nord, sur la côte Est, et sans en référer au public, sans, si ce n'est par un communiqué de presse, le gouvernement local a décidé que, bon, ben, il y avait cinq, il allait faire voter par la législature qui se réunit à partir de l'automne, 55 mesures pour réduire le CO2. C'est très bien, c'est formidable. J'ai lu la liste. Il y en a énormément qui pourraient être reprises par le Grenelle de l'environnement. Il n'y a pas eu de discussion, il n'y a rien eu. Mais bon, ils ont décidé, on allait les faire voter. Alors il y aura quelques articles dans la presse. Et puis les gens, ils vont découvrir ça, puis ils vont dire « Oh, oh !» Alors c'est formidable, c'est bien de les faire voter. Mais moi, ce que je trouve d'intéressant dans l'histoire du Grenelle, c'est tout ce qui va autour. C'est un peu comme le débat sur la Constitution européenne. Les gens, ils ont peut-être voté non. Bon, moi, personnellement, j'aurais préféré qu'ils votent oui, mais il y a eu le débat. Les gens étaient au courant. Ils savaient le pourquoi des choses. Ben, pour le Grenelle de l'environnement, c'est pareil. Et ici, il va y avoir des mesures qui vont être dictées. Et les gens, ils vont découvrir ça, comme ça. Et non, vraiment, je trouve que ce processus en France, c'est quelque chose que j'envie beaucoup.
Merci à vous, Hélène, en tout cas, pour ce point de vue. Laure.
C'est pas mal quand même, la dictature écologique aux États-Unis, je trouve ça assez marrant, on a imposé 55 mesures d'un coup. Non mais c'est vrai que, bon voilà.
Petite parenthèse, elle avait envie de se lâcher, elle l'a fait absolument. Qu'est-ce que vous pensez les uns les autres, c'est encore trop tôt, mais quand même, ce qui va sortir, bon, on sait que le nucléaire là-dessus, il n'y aura pas photo, on va continuer absolument dans les clous, on va faire le PR très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Enfin, ça a été d'ailleurs dit pratiquement dès le départ, mais on va sortir sur quoi? Sur le côté isolation des maisons, sur le BTP, on peut avoir quand même des bonnes surprises. Ça va être... qu'est-ce que l'on sent
D'après moi, c'est le gros truc qui va sortir, c'est le plan de rénovation, effectivement, du bâti ancien. Alors ça, par contre, ça coûte de l'argent, beaucoup d'argent. L'ADEME a fait mouliner ses calculettes et apparemment, ils ont obtenu un chiffre absolument faramineux. Je vous le livre, chiffre faramineux. Oui. 800 milliards d'euros pour rénover tout le bâti ancien au rythme qui est de 500 000 logements par an jusqu'en 2050. Donc sur les 40 prochaines années, il faut nous trouver 20 milliards d'euros par an juste pour le bâti. Voilà.
Bon,
donc. Ouais, c'est vrai que quand on pose la question au MEDAD, au ministère de l'écologie, du développement durable et plein de choses, on a l'air de balayer un petit peu. Écoutez, vous êtes vraiment, vous allez chercher dans les coins, mais qu'est-ce que vous venez me poser comme question? Évidemment que l'argent, on le trouvera.
Oui.
Il paraît que Borloo est hyper doué pour trouver, multiplier les
cas,
petits pains.
En tout cas, c'est assez sympathique d'Assos, mais il refuse d'en faire un obstacle. C'est marrant comme vous êtes tous obsédés par Bercy, comme si c'était moi qui avais le porte-monnaie de la France dans ma poche et que je dis je le sors ou je le sors pas. Il me semble juste que c'est une question à poser. Il veut bien qu'on la lui pose, mais il n'en a pas la réponse.
C'est parce qu'il l'a eu, mais il a eu peu de temps, quoi, le porte-monnaie. Olivier Noyas.
Moi, je serai un peu attentif aux questions qui vont toucher l'alimentation, justement, pour pas que l'écologie devienne quelque chose uniquement réservé aux classes aisées. Par exemple, je pense que c'est quand même un levier si jamais on oblige les cantines scolaires à faire 20% de leur menu bio. Parce que derrière, ça veut dire qu'on va convertir des terres qui sont aujourd'hui en culture intensive, en culture bio. Et derrière, ça veut dire qu'on peut réorienter les fameuses primes à l'agriculture. Vous savez crois qu'aujourd'hui, le budget agricole mange la moitié des ressources européennes, du budget européen. Donc voilà, ça c'est un levier puissance. Et parce que derrière, il y a aussi la question des pesticides, il y a la question de l'eau. Donc ça, je crois que c'est très important de tenir bon sur cet objectif, parce que derrière, on enclenche des vraies nouvelles politiques de pouvoir public.
Je crois que malheureusement, c'est sur ce chapitre-là qu'on va le moins avancer. C'est-à-dire que l'ambition qui aurait dû être celle du Grenelle était une refonte totale de la PAC, de la politique agricole commune. Et on n'y est pas. On voit que sur les pesticides, les mesures sont dérisoires. Enfin, il y a une refonte globale du système et des subventions. Et je trouve que
ça ne se fera pas avant 2013, peut-être.
Surtout que sur la bio en restauration collective, pas que les cantines, aussi dans les entreprises, l'objectif affiché est de 20%. Oui. Bon, on peut aller sur 100%, puisqu'on affiche des objectifs affichons du 100%. Allons-y à fond la caisse. Parce que je suis allée dans une cantine à Lyon. Ils ont un repas bio par mois. D'accord, le repas bio par mois, c'est extraordinaire. Les gamins adore ça, c'est très bon. Le cuisinier s'éclate à travailler des légumes.
Ils n'ont pas de reste.
Depuis je ne sais pas combien d'années. Ils adorent ça. Ouais. Bon, mais c'est un par mois. Les producteurs ne sont pas là derrière. Encore, on est à Lyon, on n'est pas loin de la Drôme, qui est le premier département de bio de France. Premier département de bio de France, 10% à peine des surfaces agricoles en bio. Ouais. Le premier. Bon, alors, faut y aller. Là.
On a 2%, on va dire, de surfaces agricoles aujourd'hui, même un petit peu moins en France. Bon, on espère avoir 4, mais pourquoi effectivement déjà arriver à 10, ce serait déjà pas mal.
Enfin, mais là, sur ce point, je trouve que le Grenelle reste vraiment à la marge sujet.
Alors, on va poursuivre ce petit voyage, mais on va quand même s'offrir une petite pause musicale, d'autant que c'est pas désagréable, c'est Carl Vasseur qui nous a choisi. Quoi ? Qui ? Ayo.
L'environnement, c'est comme tout, il faut commencer par des bonnes intentions. Les mettre en pratique, ça c'est autre chose.
C'est au de mon amour, avec Denis Chessou.
Some people say that I'm too open. They say it's not good to let them know everything about me. And they say one day use every little thing against me, but I don't mind. Maybe they're right. That's just how it is, and I got nothing to hide. I live my life the way I want. I got nothing to hide, nothing at all. Life is not a fairy tale. They should know that life is real. I live my life. I got nothing to hide, nothing at all. Life is not a fairy tale. Life is about more, 'cause life is real. Life is real. Ohio, Oklahoma can feel no foe. I am real from head to toe, like life is real and you should know. Me happy Ohio, Oklahoma can feel no foe. I am real from head to toe, just like my heart and like my soul. Me happy Ohio, Oklahoma can feel no foe. I am real from head to toe, like life is real and you should know. Me happy Ohio, Oklahoma can feel no foe. I am real from head to toe, just like my heart and like my soul. Me happy Ohio, Oklahoma can feel no foe. I am real from head to toe, just like my heart and like my soul. Me happy Ohio, Oklahoma can feel no foe. I am real from head to toe, like life is real and you should know.
Amis, amis de la croissance quantitative, non, c'est pas un problème, alors on était tranquillement en train de discuter, vous avez bien compris, donc amis de la croissance quantitative, à quand une croissance qualitative et une autre façon évidemment de compter les coûts environnementaux. Tenez, écoutez Jean-Louis Borloo.
Le PIB, le produit intérieur brut, qui est une donnée strictement quantitative, eh bien il est demandé que dans les 6 mois qui viennent, l'INSEE et un certain nombre d'organismes nous mettent au point le PIB vert, c'est-à-dire un nouveau concept d'appréciation en réalité d'une autre croissance. Parce que faire croire qu'éternellement le prix d'achat d'un certain nombre de produits correspond au prix d'achat qu'on va tenir compte tenu de ce qu'on prélève sur la planète est faux. Il y a un auteur américain, moi je dis à tous les auditeurs de France Inter, vraiment il y a 2 bouquins à lire, les 2 sont du même, à quelques années d'intervalle, c'est Lester Brown. Lester Brown, il dit en gros une phrase centrale dans tous ses livres. Il dit, le socialisme, en anglais comprendre le communisme, est mort de ne pas avoir laissé les prix dire la vérité économique. L'économie de marché mourra si elle ne laisse pas les prix dire la vérité écologique. Ça, c'est le fondement de toute la réflexion du Grenelle.
Voilà, et ça c'est quand même aussi une nouveauté, on en a parlé plusieurs fois avec Jean-Marie Pelt qui est toujours avec nous, de ce fameux PIB. Olivier Noyas, une chose à ne jamais oublier bien sûr, c'est de ne pas séparer la cause écologique de la nécessaire justice sociale. Et ça vous en parlez dans ce numéro spécial, l'écologie est-elle un luxe, c'est aussi au cœur de ce numéro.
Oui, c'est 30 pages qu'on a préparé avec toute la rédaction depuis 3 mois, parce que notre idée justement c'était pas d'aller ni boulevard Raspail, ni dans les magasins Nature et Découverte, mais d'aller par exemple pour voir le bio, on a été dans les HLM du Nord, au Mirail, on était justement dans les cantines scolaires, et puis aussi dans le monde entier, parce que je crois que c'est une absurdité de vouloir séparer les deux, notamment quand on va parler de fiscalité écologique. Moi, je pense qu'il serait beaucoup plus utile, au lieu d'inviter Jacques Attali, d'inviter par exemple Martin Hirsch, qui a pour mission justement de réduire cette fracture sociale. Parce que je crois qu'il faut absolument combiner les deux, sinon ça va devenir uniquement un luxe pour les fameux bobos. Donc c'est un peu tout le travail journalistique que nous avons fait dans ces 30 pages, c'est d'aller un peu partout. Il y a quelque chose qui est passé un peu inaperçu. Tout à l'heure, on parlait du bio. Il faut savoir qu'au plus haut niveau, la FAO, qui est quand même l'organisme des Nations Unies pour l'alimentation, ils ont publié un rapport en mai qui est passé un peu inaperçu. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, quand même, la culture bio, c'est 120 pays, c'est 310 millions d'hectares. Même en Chine, où il y a beaucoup de dégâts, enfin une croissance absolue, même en Chine, les surfaces bio ont triplé en 2 ans. Alors évidemment, c'est une goutte d'eau, mais ça commence toujours.
Non, mais ça apporte de vraies réponses. On le voit en Argentine, on le voit aussi dans d'autres pays, c'est vraiment là. Les Égyptiens aussi en font beaucoup.
Enfin. Oui, en Inde, on était dans une ferme justement où on réapprend aux paysans indiens à cultiver bio. En Argentine, il faut savoir que le mouvement Pro Huerta pour le maraîchage concerne plus de 3 millions d'Argentins. Donc c'est, vous voyez, à Paris, on parle des jardins partagés. En Argentine, dans les grandes villes argentines, aujourd'hui, dans les quartiers en difficulté, on peut faire son potager avec des méthodes bio et arriver à l'autosuffisance alimentaire. Donc voilà, donc c'est toutes ces initiatives que nous avons essayé de faire apparaître au grand jour.
Alors ça, c'est une idée qui doit bien plaire à Jean-Marie Pelt, qui est donc toujours avec nous. Jean-Marie, lorsque l'on parle de biodiversité, c'est-à-dire ce terme, on va dire, qui est assez difficile à expliquer, mais on va dire que c'est le tissu vivant dont l'homme fait partie, hein, au même titre que les animaux, les végétaux, et donc on en fait partie. Là aussi, il y a sûrement une clé avec ce qu'on appelle les trames vertes écologiques. Ça, vous avez envie de voir ça émerger à la suite du Grenelle ? Jean-Marie, êtes-vous par là ?
Ne pas découper en mosaïque le territoire et de permettre aux espèces de circuler et donc d'avoir un équilibre écologique global. Alors dans ce groupe biodiversité auquel j'ai participé, on a aussi insisté sur le fait qu'il fallait enfin autoriser les paysans à semer les semences des espèces anciennes du terroir, ce qu'ils ne peuvent pas faire actuellement pour des raisons purement économiques, parce qu'il faut inscrire les semences sur des catalogues et que ça coûte cher. Nous avons beaucoup insisté aussi sur la nécessité de mettre enfin de l'écologie dans les parcours scolaires et universitaires, puisque, comme le disait une charmante jeune fille hier soir à ma conférence à Mulhouse, elle sortait d'une maîtrise en biologie, et j'avais parlé du fait qu'on n'enseigne plus les plantes et les animaux dans la biologie, dans les facs. Elle m'a dit, oui, ce que vous dites est vrai, on ne nous a jamais montré un coquelicot. Voilà, et je voulais dire simplement ceci, en évoquant un souvenir quand j'ai fait mon herbier en 1951 et que je commençais mes études de pharmacie, j'ai récolté des plantes dans mon village, en Lorraine, je les ai étiquetées, j'ai mis la date de récolte et le nom latin. J'ai ramassé ces plantes dans les champs, autour de la maison, dans les sentiers, au bord des chemins. J'y retourne.
Il n'y a plus rien.
Oui. Toutes les plantes que j'ai ramassées, il n'y en a plus aucune. Toutes ces espèces-là ont complètement disparu, c'est vrai, de toutes les plantes des moissons aussi. Toutes les plantes qui ont des fleurs, il n'y a plus que des graminées. Et ceci donc montre combien la biodiversité a été, il faut bien dire, matraquée par les pesticides.
Oui.
C'est le facteur qui a le plus détruit la biodiversité. Alors il n'y a pas seulement les pesticides en tant que danger pour la santé, ça, on en parle de plus en plus, mais il y a aussi ce danger pour la biodiversité et les abeilles en payent lourdement le prix. Parce que dans nos champs, non seulement il n'y a plus de luzerne et plus de trèfle, qui était la nourriture classique des abeilles, mais il n'y a plus toutes ces fleurs sauvages, et c'est une des raisons parmi beaucoup d'autres qui explique l'effondrement des populations d'abeilles si terriblement inquiétantes aujourd'hui.
Eh bien, merci Jean-Marie. Une femme qui a quelques abeilles encore dans son jardin, on le souhaite, enfin, bien qu'à cette saison, elle soit un petit peu rangée, c'est Nathalie Fontrelle. Nathalie, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous nous écoutez déjà depuis le début tout à fait tranquillement. Je sais que vous profitez de cet automne merveilleux, de cette presque cet été indien. On parle avec vous, donc, toujours dans l'actualité. Peut-être un peu de publicité, ça vous plaît bien, ça, Nathalie?
Oui, d'abord, j'ai deux nouvelles à vous annoncer, une mauvaise et une bonne.
Bon.
Alors, je commence par la mauvaise nouvelle.
Bon, oui. C'est
les salades ont gelé cette nuit.
Les salades ont gelé cette nuit.
Et voilà. Très bien. La bonne nouvelle, c'est qu'il a gelé cette nuit. Et oui. Moi, ça me fait vachement du bien, parce que c'est un phénomène assez normal à cette période de l'année. Donc, voilà. Vive les salades gelées.
Youpi, très bien.
Voilà.
Bah écoutez, c'est très bien. Donc on trouvera de la salade tout à fait en pleine forme pour pouvoir se faire une salade de tomates bientôt, Nathalie. Et alors sinon sur la publicité aussi, petit coup de gueule peut-être ou...
Oui, alors vous savez que la publicité, elle a été épinglée plusieurs fois.
Oui. Hein.
Moi je me souviens de Madame Bachelot quand elle était ministre de l'écologie, qui s'est fâchée tout rouge en voyant la publicité soi-disant verte de Renault, prenez votre bagnole pour sortir la poubelle, hein, c'est bien. Et donc à l'époque, elle a écrit au PDG de Renault en disant, ben, le jour où vous me présentez votre rapport développement durable, vous risquez bien de le prendre dans la figure parce que c'est pas cohérent. Et suite à cet épisode, le PVP a adopté une charte de bonne conduite pour responsabiliser les annonceurs. Et patatras, parce que ça marche si bien que l'Alliance pour la planète, qui a passé au crible une bonne trentaine de publicités, a conclu qu'elle ne respecte pas la charte. Et en juin dernier, l'ADEME a publié une étude qui arrive à peu près aux mêmes conclusions. Je prends des exemples. Hein. Est-ce que c'est bien raisonnable de vanter les effets positifs de l'achat et de l'usage d'une voiture sur nos poumons ? Non, pas vraiment. Est-ce que c'est bien raisonnable de présenter systématiquement les 4x4 dans la nature alors qu'ils n'ont pas en plus le droit d'y rouler? Est-ce que ce slogan-là, changer le monde sans changer la planète, c'est beau hein, ça, changer le monde sans changer la planète,
c'est chouette, hein.
Pour vanter les mérites d'une voiture hybride sans doute, donc qui fonctionne à la fois au carburant fossile et au carburant, à l'électricité. C'est bien ça, mais sauf que la voiture en question, elle émet 186 grammes de CO2 par kilomètre. Elle est classée E sur l'étiquette CO2 qui va de A à G. Franchement, il n'y a vraiment pas de quoi se vanter. Autre exemple, Total. Pour vous, notre énergie est inépuisable. Alors évidemment, c'est un jeu de mots, je le sais, mais ça laisse quand même entendre que l'énergie est inépuisable. D'ailleurs, Gaz de France vient de modifier un slogan qui est à peu près identique. une énergie durable entre nous pour une énergie nouvelle entre nous. Oui. Preuve qu'il y avait bien un problème. Alors aujourd'hui, le BVP nous apprend que plusieurs annonceurs ont nettoyé leur pub. C'est l'effet Grenelle de l'environnement, hein, sans doute. Hein. Alors GDF, dont je viens de parler, BMW, Opel, McDo, le BVP, en fait, tente de convaincre qu'il n'est surtout pas nécessaire de réglementer la pub écologique. On va le faire tout seul. Moi, je me pose juste une question. La pub peut-elle être écologique ? Dans la mesure où elle nous pousse à consommer et à acheter des produits dont on se passait jusqu'à présent, je prends un exemple, les lingettes qui concurrencent le bon vieux produit, vous savez, le bidon. Là.
C'est une merveille pour les poubelles, ça, voilà. Les lingettes, bien sûr.
Eh bien, évidemment que la réponse est non. Alors, il y a une solution que vous avez évoquée tout à l'heure, l'étiquette CO2 et déchets sur les produits de grande consommation. Après tout, nous, les consommateurs, nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir d'acheter ou de ne pas acheter. Et si on est bien informé, on pourra privilégier les produits les plus respectueux de l'environnement et on pourra forcer les industriels à ne plus mettre sur le marché, vous savez, la lampe halogène, stylo bille, percolateur, tondeuse à gazon, bouilloire, elle fait tout, hein, cette lampe.
Hein. Oui.
Franchement, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? La réponse est non. Il faut moins consommer.
Donc, on va continuer, effectivement, à informer nos auditeurs sur France Inter. Tout à fait librement, comme on le fait, Nathalie. Voilà.
Eh ben oui, j'espère.
Bon, allez, mais je sais que vous restez avec nous, hein, à la fois par la pensée et par le poste de radio. Et ça va nous emmener d'ailleurs aussi, Laure Noilat, de Libération, je vous le rappelle, à cette notion que vous avez envie de développer de négationnisme écologique. Alors racontez-nous un petit peu, parce que c'est vrai qu'on a vu fleurir un certain nombre de, on va dire, de bouquins qui marchent plutôt pas mal.
De Brulot,
voilà.
Anti-écolo, ces écolos chevelus avec leurs sandales en cuir, là, veulent retourner dans les cavernes avec des bougies. Quelle horreur, mon Dieu, quelle horreur. Ben oui, on a vu fleurir beaucoup de bouquins cette année. Alors, on avait celui de Claude Allègre, 75 000 exemplaires vendus, Ma vérité sur la planète. Donc, sa vérité sur la planète, c'est que le réchauffement, bon ben, c'est pas très grave et surtout, c'est pas lié aux activités humaines. On a Jean de Kervas-Doué, 25 000 exemplaires, Les prêcheurs de l'Apocalypse. Je me les suis farci les livres, hein, Denis, je vous assure.
Non,
c'était horrible, autant se fouetter avec des clous, c'était pareil. Il y avait également
non, moi,
le livre
ça,
de
moi, j'en ai lu deux.
Écologie, la grande arnaque, etc. Bon, voilà. Au moment où le Grenelle incite tout le monde à faire des efforts, quand même, c'est le retour des négationnistes est assez légitime parce qu'ils se disent qu'ils en ont marre, qu'on leur tape dessus, quoi. Ce qui est juste un peu dommage, c'est qu'ils sont en train de faire des ravages, quoi. Parce que dans la tête de ceux qui se disent, ah ouais, l'environnement, je vais le protéger, mais bon, du coup, je vais acheter une voiture hybride, ou alors je vais acheter quelque chose qui émet moins de carbone, etc. Parce que disait Nathalie, c'est-à-dire on continue à consommer tant que c'est vert, équitable et bio. Bon, alors, on ne change pas fondamentalement ses comportements. Et quand on n'a pas envie de les changer, la meilleure façon de se rassurer, quand on a peur, c'est d'avoir quelqu'un qui vous dit, mais attendez, ils sont complètement débiles à côté, ils sont en train de vous raconter n'importe quoi, de grossir le tableau, il ne faut rien changer. Bon, ça me fait peur parce que, par exemple, Copé, Jean-François Copé de la majorité UMP, il disait que l'écologie ne doit absolument pas être une contrainte. Je suis désolée, l'écologie, c'est protéger l'environnement, c'est pas la fête, quoi. Moi, quand je veux perdre 3 kilos, je m'inflige un régime, je change mon alimentation, je vais faire du sport.
D'où la société de sobriété,
je change mon comportement.
Oui. Bon,
si on veut vraiment changer nos comportements, il va falloir un petit peu se serrer la ceinture. Et ça passe, se serrer aussi les cerveaux, quoi. C'est-à-dire, il faut s'aérer la tête et revoir complètement la façon dont on vit. Tout ça, c'est juste pour vous dire, les écologistes ne sont pas... Nicolas Hulot est quelqu'un de très bien, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui vit dans une caverne, que je sache. Tout ça, c'est quoi ? C'est juste un retour à l'équilibre.
Oui.
Hein, que les écolos réclament. Parce que le balancier,
que le balancier est trop loin.
Bien trop loin. C'est comme si on les entendait trop, depuis trop souvent, qu'ils nous avaient rabattu les oreilles avec des drames, etc. Non, justement, on ne les a jamais assez entendus et c'est maintenant que ça peut se passer. Donc moi, je dis non aux négationnistes. Fallait-il couper des arbres pour imprimer ces bouquins ? La réponse pour moi est non.
Bon, on demande un peu de sentiment qu'on tue le messager, là. C'est ça, Olivier
Noyas. J'aurais une petite suggestion à faire. Et je sais qu'ils n'ont pas du tout aimé le film d'Al Gore, Une vérité qui dérange. On pourrait peut-être leur offrir 3 billets de cinéma pour aller voir Un jour sur Terre, le fantastique documentaire de la BBC, là, qu'ils ont tourné pendant 5 ans, qui est un documentaire très paisible et en même temps très lucide sur l'état de la planète. Donc voilà, peut-être une petite séance de cinéma.
Avec pas mal d'espèces qui ont disparu d'ailleurs dedans, voilà. Hein, peut-être depuis...
Anne Chaon.
Laure parlait de Nicolas Hulot. Je trouve qu'il a une formule bien trouvée pour évoquer ce que pourrait être un Grenelle réussi. C'est une prime d'assurance sur l'avenir.
Oui, c'est ça.
Je pense qu'il faut exactement le voir comme ça. Et ces prêcheurs de l'apocalypse, parce que c'est eux l'apocalypse, tiennent un discours en plus qui est réellement mensonger en apposant des données qui ne sont pas comparables entre la Chine et la France et ont l'air de dire aux gens à quoi ça sert que vous fassiez des efforts, puisque de toute façon, les Chinois qui sont si nombreux vont continuer de polluer à tout va.
Et le discours principal, c'est de se dire qu'il faut arriver à une société de modération pour éviter cette fameuse société de privation. Mais dans un moment où la société est quand même extrêmement anxiogène, c'est vrai que les gens ont peur globalement, et c'est pas simple hein, de vivre comme ça aujourd'hui. On trouve un bouquin qui vous dit ah bah c'est peut-être pas si grave que ça, donc il y a ce phénomène de rassurance quoi. Donc là on saute dessus. C'est un petit peu ça aussi peut-être l'idée générale derrière d'arriver à se rassurer et d'aller vers d'autres scénarios. Mais on est une société où on sait ce que l'on peut perdre, mais on ne sait pas encore ce que l'on peut gagner. Alors qu'en fait, il y aura des gagnants et des perdants, a priori, avec tout ce qui va se passer en matière
environnementale. Oui, d'après l'ONU, il y aura 500 millions de réfugiés climatiques. Voilà. D'ici à 2050, il y aura des perdants, bien sûr. Mais ce ne sera pas forcément dans les pays riches, d'ailleurs, qu'il y aura le plus de perdants.
Alors, on va continuer en musique et puis on va revenir, on va se faire un petit tour en Guyane et bien sûr aux États-Unis où nous attend Hélène Crier.
On avance, moins l'on en sait. Voilà la stricte vérité. Comment, pourquoi, trop de secrets que l'on ne comprendra jamais. Devant une telle certitude, je ne vois qu'une seule attitude. Voilà pourquoi je vis sans détour, au jour le jour. Mes moments forts, mes incidents de parcours, au jour le jour. Sans faire de serment ni grand discours, au jour le jour. Voilà pourquoi quand j'aime, c'est pas amour, mais au jour le jour. Adoucir nos solitudes, que la réalité soit moins rude. On partage, on reçoit, on donne, mais personne n'appartient à personne. Et même si c'est pour la vie, l'important c'est ici. Aujourd'hui, voilà pourquoi je vis. Le jour, mes moments forts, mes incidents de parcours, au jour, le jour, sans faire de serment ni grand discours, au jour, le jour, voilà pourquoi je t'aime d'amour, mais au jour, le jour, voilà pourquoi je t'aime d'amour, mais au jour.
Au jour le jour, et puis un jour on vous présentera si Madame Nature a les nerfs, qui est très intéressante aussi de Louis Chédid. Tenez, pour compléter l'ennoyate, extrait, vous savez, des petites phrases de Charlie Hebdo sur ce que vous disiez. La France ne pourra pas réduire par 4 ses émissions de CO2 d'ici à 2050, sauf si elle demande à Claude Allègre d'arrêter d'écrire des livres dont les invendus finissent dans les incinérateurs des déchetteries. Voilà, bon, ça c'est juste sous le joke, mais enfin, manifestement, il en vend bien, donc il ne va pas y avoir effectivement trop d'invendus.
Hélène Criez, toujours avec nous, Hélène Criez-Wiesner, depuis les États-Unis, qui nous écoute tout à fait consciencieusement. Et alors, parlez-nous, Hélène aussi, dans l'actualité américaine, de cette croisade contre l'écologiquement correct. Qu'est-ce que l'on appelle d'abord l'écologiquement correct aux États-Unis ?
L'écologiquement correct, c'est ce qui va dans le sens de dire l'environnement se dégrade, la planète se dégrade. Ça, c'est l'écologiquement correct. Mm-hmm. Alors ça, c'est toute la société américaine, vous l'avez fait remarquer, notamment depuis le film d'Al Gore. On en a déjà parlé dans votre émission, d'ailleurs. C'est vrai que les mentalités évoluent beaucoup, mais alors vraiment à toute vitesse. Hein. Merci Al Gore. Hein. Mais d'un autre côté, il y a des chercheurs scientifiques, qui commencent à tirer la sonnette d'alarme. Alors, pas tout à fait sur le même plan que Claude Allègre, qui lui dit carrément... Claude Allègre, c'est plutôt sur le fond, quoi. C'est-à-dire, oui, on en fait trop sur le réchauffement climatique. Là, c'est pas le cas. Il y a un chercheur, notamment, qui est un géographe, qui travaille à l'université UCLA, en Californie, qui a publié un papier qui fait pas mal de bruit dans la communauté scientifique, parce qu'il dit si nos travaux de recherche ne vont pas dans le sens du pessimisme
ambiant,
on a un mal de chien à se faire publier, parce que on a des blocages, on veut pas nous passer nos papiers dans les revues scientifiques, on nous dit que nos travaux c'est pas des bons travaux, on nous calomnie, il dit qu'il y a un retour de bâton mais à l'envers, et que scientifiquement c'est pas acceptable. Voilà, alors évidemment, il emploie des mots, mais quand même, il dit, voilà, je vais vous décrire la sensiblerie, l'exagération et même la méchanceté idéologique. Alors il ajoute, autant de qualités qui pour moi définissent l'extrémisme, qui ont envahi le champ des sciences de l'environnement. Alors il donne plein d'exemples d'articles refusés pendant des mois par des scientifiques.
Il y avait, pardonnez-moi, il y avait une spécialiste de la chimie atmosphérique du côté de Bombay, qui avait une collaboratrice à Bombay, qui démontrait que les fourneaux des cuisines et non les émissions des centrales électriques au fioul étaient à l'origine des quantités énormes de particules noires carbonées qui étaient émises dans la région. Et ça a été refusé, par exemple.
Oui, alors elle a publié son travail dans la revue Science, qui est quand même pas n'importe quoi. Oui. Mais ensuite, elle a subi les foudres d'une grande institution scientifique indienne. Bon, c'était en 99, hein, mais enfin, c'est un gros exemple. Alors, ce que disait cette scientifique qui est une amie à moi, que je connais, qui travaille ici en Caroline du Nord, elle dit elle me disait, elle s'appelle Uma Shankar, moi ce qui m'irrite, c'est que des groupes politiques conservateurs, comme le lobby des pétroliers par exemple, qui disposent d'un pouvoir autrement plus considérable que n'importe quel lobby vert, ben, ils ont utilisé ce type d'argument en disant ah oui, on n'est pas écologiquement correct, alors ça prouve bien que les arguments écolos sont pas bons. Alors ils ont utilisé ce type d'argument de façon très efficace pour s'opposer à toute intervention du gouvernement en faveur de la prévention des changements climatiques. En gros, c'est l'arbre qui cache la forêt, et ils ont tellement plus de façon de latitude pour s'exprimer cela que Uma Shankar a dit ben écoutez, c'est pas tant pis s'il y a des scientifiques qui passent à l'as avec leurs petits avec leurs recherches. Bon, c'est dommage pour eux, mais ça a été pendant tellement longtemps le cas contraire qu'on va pas pleurer sur leur sort.
Comment vous voyez, Hélène, vous êtes observatrice, je sais que 300 millions de personnes aux États-Unis, c'est pas un groupe homogène, mais comment vous voyez quand même évoluer cette sensibilité à l'environnement?
Je vous ai entendu là pendant 45 minutes parler, j'ai l'impression que ça évolue exactement de la même façon qu'en France, c'est-à-dire qu'a priori les Américains ont quand même plutôt du retard à rattraper. La prise de conscience est beaucoup plus récente, mais ils font énormément d'efforts. Ils ont vraiment très envie que ça change. Mais par contre, quand il s'agit de toucher à ses habitudes quotidiennes, à faire des vrais efforts, comme disait Laure, à changer ses habitudes pour de bon et pas seulement en changeant de voiture, il y a le même genre de résistance qu'en France. Je pense que de ce côté-là, quand on a un peu de recul, nos deux sociétés sont pas si différentes. Mais il y a une prise de conscience, on peut pas dire le contraire. Oui. Mais de là à changer les choses,
c'est parfois un peu comme en France, on a eu un sondage, en gros 90% des Français sont d'accord pour que le voisin change et fasse des efforts en matière d'environnement. Quoi.
Donc, exactement. Et alors aux États-Unis, il y a quand même un truc supplémentaire qui est qu'on est habitué à un très haut niveau de confort. On n'est pas habitué à faire des économies d'énergie, alors que c'est vrai qu'en France, quand même, depuis les années 70, on fait attention aux factures d'électricité. Mais ici, on faisait pas attention aux factures. Et il y a quand même un certain retard à rattraper, ça va prendre du temps.
Merci beaucoup, merci Hélène. Et puis bien sûr, on vous rejoindra donc une autre fois dans cette émission. Anne Chao, on va descendre un petit peu, on va se retrouver chez nous en Guyane.
Alors là, oui, vous savez que j'ai toujours à cœur, à chaque fois que vous me faites le plaisir de me faire venir ici, de vous parler un petit peu de ce projet Cambior d'exploitation d'or en Guyane, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Cayenne et dans une réserve particulière, dans une région particulièrement riche en faune, en flore et des plus rares, y compris le... On dit que c'est le sanctuaire des caïmans noirs. Et il se trouve justement que le groupe auquel participait Jean-Marie Pelt, ce groupe 2 chargé de la biodiversité, a recommandé l'arrêt de ce projet minier qui a obtenu ses premières autorisations en 2004, qui a été retoqué, qui a refait son projet. On peut dire que le péché originel, évidemment, c'est l'État qui avait accordé une concession minière au cœur de cette réserve naturelle extraordinaire et célébrée comme telle, et encore très très méconnue. L'opérateur canadien localement, CBJ Caïman, qui est en fait une filiale du gros groupe canadien IAMGOLD Corporation, s'est plié à un certain nombre d'exigences. Le ministère de l'écologie avait envoyé en juillet 2006 une mission, donc ils ont refait leur projet. Reste que il s'agirait d'exploiter pendant 7 ans dans des fosses de 150-200 mètres de profondeur à ciel ouvert environ 35 tonnes d'or. Donc sur 7 ans, ça fait 12 millions de tonnes de roches broyées et surtout ça fait 30 000 tonnes, enfin surtout, et aussi de produits chimiques, du cyanure, de la chaux qui file dans les sols, dans les ruisseaux, dans les rivières. Et même si les experts disent que le risque de contamination de Cayenne est loin d'être avéré, il y aura de toute façon une contamination lente de tous les cours d'eau. Alors ce serait quand même un honneur pour le Grenelle d'arrêter ce projet qui est un véritable scandale, surtout que le Grenelle s'est pas beaucoup intéressé à l'outre-mer. Et la Guyane, c'est un département français. C'est la plus grande région de biodiversité de l'Union européenne.
Exactement. Bah écoutez, merci beaucoup donc à toutes et à tous. Olivier Noyas, on reparlera, mais là, ce sera chez vous dans la Creuse, une rivière que vous réhabilitez avec beaucoup de patience qui s'appelle la Brézantine. Et vous avez de jolis résultats hein, quand même. Hein, ça fonctionne pas mal, ça.
Oui, oui. Bah on essaye de réintroduire la truite Fario. C'est un peu notre indicateur. C'est moins médiatique que l'ours polaire, mais c'est tout aussi important pour la biodiversité.
Voilà. Merci à vous. Donc, ce numéro spécial d'écologie et tel un luxe, c'est le numéro de la vie. Puis vous retrouvez régulièrement leur noyade dans Libération.
Tous les jours en ce moment.
Absolument, ça n'arrête pas là, tous les jours. Et puis Nathalie sera avec nous pour l'actualité de l'environnement la semaine prochaine, ainsi que Jean-Marie Pelt. Et puis je vous emmènerai sur une... Là, on va se faire du bien parce que ça va être un sujet très positif. Le Conservatoire du Littoral qui a acheté une île du côté de Molène, c'est l'île de Kéméné. Et donc c'est un jeune couple qui est là-bas, qui s'est installé, qui est autonome. Donc reportage, vous verrez. Autonomie énergétique de ce côté-là.